Achim von Achnim, Isabelle d'Égypte, Premier amour de Charles Quint, 1812, traduit de l'allemand par Théophile Gautier fils. Braca, la vieille bohémienne, enveloppée dans la guenille rouge qui lui servait de manteau, marmottait son troisième pater devant la fenêtre, et depuis longtemps déjà, Bella, répondant au signal, montrait sa tête charmante et nuageuse. Ses yeux noirs brillaient à la clarté de la pleine lune, qui, rouge comme un fer à demi éteint, sortait des vapeurs de l'Escaut pour s'élever de plus en plus clair dans l'espace. « Tiens, dit Bella, voilà donc l'ange, comme il me sourit. Enfant, dit la vieille, que vois-tu donc ? C'est la lune, dit Bella, elle est de retour, elle. Mais mon père n'est pas revenu. Cette fois, il reste trop longtemps dehors. J'ai pourtant fait de beaux rêves de lui l'année dernière. Je le voyais assis sur un trône élevé en Égypte et les oiseaux volaient autour de lui. Cela m'a consolé. « Pauvre enfant, dit la vieille, si cela était vrai. Mais as-tu apporté quelque chose pour dîner ?»« Oh oui, répondit Bella. Le voisin a secoué son pommier et beaucoup de pommes sont tombées dans le petit ruisseau. Je les ai recueillies là-bas au détour, les racines d'un vieil arbre les avaient arrêtées. Et puis, mon père, avant de partir, m'avait laissé un gros pain. « Il a bien fait, dit sourdement la vieille. Il n'a plus besoin de pain, ils lui en ont fait passer le goût. Non, ma bonne vieille, dit Bella, parle, je t'en prie. Dis-moi, mon père, ne se serait-il pas blessé en faisant ses tours de force ? Conduis-moi auprès de lui. Où est mon père ? Où est mon duc ? Bella tremblait en disant cela, et ses larmes tombaient sur le sol humide à travers les rayons de la lune. Si j'eusse été un oiseau, et que j'eusse passé alors, je serais descendu. J'y aurais trempé mon bec, et je les aurais rapportés au ciel, ces larmes de Bella, tant elles étaient tristes et pénétrantes. « Regarde là-bas, murmura la vieille. « Sur cette montagne, il y a une potence. Dieu n'y vient jamais voir, et cela s'appelle le tribunal de Dieu. Celui qu'on amène devant ce tribunal n'a pas longtemps à vivre. La viande que le soleil y fait cuire, on ne la sert sur aucun plat. Elle reste là jusqu'à ce que nous venions la chercher. Ne crie pas, pauvre enfant, c'est ton père qui est pendu là-bas. » Mais calme-toi, reste tranquille. Nous allons le chercher cette nuit, et nous le jetterons dans la rivière avec tous les honneurs dus à son rang, pour qu'il aille rejoindre ses frères en Égypte, car il est mort en glorieux pèlerinage. Allez, prends ce vin et ce plat de viande, et va, pauvre orpheline, célébrer en son honneur le repas funèbre. Bella était si effrayée qu'elle pouvait à peine tenir ce que lui donnait la vieille. « Tiens donc, continua la vieille, cela va tomber et ne pleure pas. Ainsi, pense que maintenant tu es notre seul espoir, que c'est toi qui dois nous reconduire lorsque notre vœu sera accompli. Pense aussi que tu es maintenant maîtresse de tout ce que possédait ton père. Va voir dans sa chambre, dont voici la clé, tu y trouveras bien des choses. Ah, j'oubliais. Lorsqu'il m'a donné la clé, il m'a chargé de te dire de plus avoir peur de son chien noir, Simpson, que l'animal savait déjà qu'il devait obéir et ne plus te mordre. Il a dit aussi qu'il ne fallait pas que tu fusses triste, qu'il avait eu longtemps le mal du pays et que maintenant il en était guéri, car il est retourné dans sa patrie. Voilà tout ce qu'il a dit. Tu as là un pot de lait que jetterai en cachette dans le pâturage. Cela fait partie du repas funèbre. Bonne nuit, mon enfant, bonne nuit. La vieille sortit, et Bella, consternée, la suivit des yeux, comme on regarde une lettre qui vous annoncerait un grand malheur. On la rejette loin de soi, et cependant, on voudrait savoir tout ce qu'elle contient. Elle eût volontiers suivi la vieille, mais elle craignait autant qu'elle l'aimait la rude peuplade dont faisait partie Bracca. Les bohémiens étaient alors sous le coup de la persécution que les juifs, chassés de tous côtés, avaient attirée sur eux en empruntant leur nom. Bien souvent, leur duc Michel s'en était plaint. Bien souvent, il avait employé tous les moyens pour réunir les siens et les ramener dans leur patrie. Car ils avaient accompli leur vœu de marcher aussi longtemps qu'ils trouveraient des chrétiens. Ils revenaient d'Espagne par l'océan, mais la puissance toujours croissante des Turcs, la persécution, le manque d'argent, rendaient leur retour impossible. Déjà le duc avait essayé de les faire vivre de leurs jeux nationaux, c'est-à-dire porter les tables en équilibre sur les dents, marcher sur les mains, faire des culbutes et tout ce qu'il montrait sous le nom de tour de force et d'adresse. Mais, chassés sans cesse d'un pays à l'autre, leur force même s'épuisait, et ils se voyaient réduits, pour soutenir leur pauvre existence, à manger des taupes et des hérissons. Ils comprirent bien qu'ils étaient punis d'avoir repoussé la Sainte Mère avec l'enfant Jésus et le vieux Joseph lorsqu'ils fuyaient en Égypte. Car dans leur grossière indifférence, ils avaient pris ces divins personnages pour des juifs. Or, ces derniers, depuis les temps les plus reculés, n'étaient plus revus en Égypte parce que, dans leur fuite, ils avaient emporté les vases d'or et d'argent qu'on leur avait prêtés. Mais lorsque plus tard, à sa mort, ils reconnurent ce sauveur qu'ils avaient méconnu pendant sa vie, une partie du peuple voulut expier cette dureté par un pèlerinage. Ils firent vœu de marcher tant qu'ils trouveraient les chrétiens. Ils passèrent en Europe par l'Asie mineure et emportèrent toutes leurs richesses avec eux. Tant qu'elles durèrent, ils furent partout les bienvenus. Mais ensuite, malheur aux pauvres sur la terre étrangère. Après cette digression nécessaire à l'intelligence de ce qui va suivre, revenons à notre histoire. Une nouvelle troupe, dans laquelle se trouvaient deux individus nommés Happy et Himmler, était arrivée de France depuis 8 jours, sans argent ni ressources. Le duc résolut de se montrer encore une fois en public pour leur procurer de quoi manger. Il alla avec eux dans une auberge. Pendant qu'il émerveillait les assistants en portant une douzaine d'hommes sur ses bras et sur ses épaules, il entendit répéter de tous côtés qu'Happy avait été pris à voler des coqs dans la balcour et que les cris de ces animaux l'avaient trahi, tandis que lui, le duc, était resté dans la chambre pour occuper la foule et faire diversion. Les bourgeois de Gand ne pardonnent jamais un vol. En vain le duc feignit-il de vouloir punir Happy. Il fut arrêté lui-même ainsi qu'Hemmler, et on les condamna à être pendus comme voleurs. On avait le droit, à cette époque, de faire périr les bohémiens toutes les fois qu'ils se laissaient prendre. En vain, Michel voulut-il protester de son innocence et de celle d'Hemmler. On fait avec nous comme on fait avec les souris. Une souris a-t-elle entamé un fromage? On dit aussitôt, ah, les souris sont là. On sème du poison, on tend des pièges pour les tuer toutes. Eh bien, pour nous, de même, pauvres bohémiens, nous ne sommes tranquilles qu'une fois pendus. Il fut condamné, en effet, à être pendu. Il versa des larmes amères en pensant que lui, le dernier héritier mâle de sa noble maison, allait être mis à mort d'une manière si déshonorante. Bientôt, sa bouche fut fermée jusqu'au jour du jugement, où il éleva ses plaintes contre la dureté des riches, pour qui la vie d'un homme est peu de chose à côté de leurs 20 trésors, et ses riches n'iront point dans le royaume du ciel, où Bella retrouvera son père. Lorsque Bella fut revenue de sa stupeur, elle s'écria : « Ah, mon rêve ! Voulait donc dire que mon père serait élevé bien haut ? Ah oui, maintenant il est élevé dans le ciel, où il pense à nous. » Le chien noir quitta alors, contre son habitude, la porte de la chambre, s'étendit aux pieds de la jeune fille et poussa un hurlement plaintif. « Toi aussi, tu le sais donc, Simpson ?» lui dit-elle. Le chien secoua la tête. « Veux-tu me servir fidèlement ?» Le chien secoua de nouveau la tête, courut vers la fenêtre et se mit à gratter. Bella leva les yeux, le battant était resté ouvert. Elle vit à travers l'obscurité de la nuit le cadavre de son père se balancer, puis tout d'un coup tomber. « Maintenant, dit-elle, ils l'ont enlevé. Il lui donne un festin d'honneur. Bien moi aussi, je vais lui donner son repas funèbre. » Munie de son pain et de sa cruche de vin, et suivie du chien noir, elle entra dans le jardin. La maison était abandonnée depuis 10 ans par peur des revenants. Pendant tout ce temps, les bohémiens en avaient fait leur résidence, et avait eu soin d'en éloigner le propriétaire, riche marchand de la ville, qu'il avait acheté pour y venir passer l'été. À la suite d'une banqueroute, il avait été mis en prison, et ses biens étaient administrés par ses créanciers. On pense de quelle manière. Quoique la crainte des revenants fît respecter cette retraite, les bohémiens n'osaient cependant pas s'y montrer pendant le jour, mais la nuit, les voyageurs se détournaient de leur route pour ne pas passer près de la maison. La belle et pâle enfant se dirigea vers la porte du jardin. Elle ressemblait à un spectre, et le gardien effrayé courut se réfugier dans une chapelle éloignée pour implorer la protection de la foi. La pauvre Bella, elle ne se doutait pas qu'elle fût si terrible. La douleur causée par la perte de son seul espoir, de son père, l'avait tellement ébranlée qu'elle n'avait plus qu'une seule idée, celle d'exécuter les ordres de la vieille Barca. C'était sa plus douce consolation de pouvoir rendre encore un dernier honneur à son père. Selon l'usage établi chez les siens pour les repas funèbres, elle étendit son voile sur une pierre. Elle mit 2 verres, 2 assiettes, partagea le pain en 2, puis elle versa du vin dans les 2 gobelets et les choqua. Elle vida le sien et versa celui du mort dans le ruisseau qui, à quelque distance de la maison, se perdait dans l'escaut. Comme elle répandait dans l'eau cette première offrande, les flots, tout d'un coup, mugirent et se soulevèrent, comme si un gros poisson, qui n'aurait pas eu de place dans ce lit étroit, était remonté à la surface. En ce moment, la lune s'éleva au-dessus de la maison, derrière laquelle elle était restée cachée jusque-là, et Bella vit l'image pâle de son père. Sur sa tête était la couronne qui avait placé les bohémiens avant de le lancer dans le fleuve. Et comme les flots tourbillonnaient avec leur précieux fardeau, la tête tourna à la pauvre enfant. Elle crut que son père vivait encore et qu'il cherchait à sortir de l'eau. Elle s'y jeta pour le saisir, mais le chien noir la retint par sa robe et, s'arc-boutant sur le bord, l'empêcha de ramener le cadavre et en même temps d'être emporté avec lui dans la mer. Enfin, Braca revint. Ayant trouvé la porte de la maison fermée, elle était entrée dans le jardin. Elle resta comme pétrifiée à ce spectacle étrange. Le puissant Michel, dans son linceul, avec sa brillante couronne d'argent. Au-dessus de lui, la blanche jeune fille, entourée de ses vêtements de deuil et retenue grâce à sa robe par le chien noir dont les yeux lançaient des flammes. La vieille se mit à rire, comme c'était son habitude quand il arrivait quelque chose d'extraordinaire. Puis elle s'élança, ramena avec peine la jeune fille sur le bord et lui dit « Mais laisse-le aller, il sait mieux son chemin que toi. » À ces mots, les flots reprirent tranquillement leur course. La lune disparut derrière les nuages et Bella tomba dans les bras de la vieille. Un mois s'était déjà écoulé dans l'affliction et la douleur. La vieille, dans l'intérêt de leur propre sûreté, ne pouvait venir tous les jours et Bella passait son temps avec le chien qui dormait toujours. Lorsqu'il avait mangé, il remuait la queue, se léchait et se grattait. C'était là toute son occupation. Elle finit enfin par se décider à ce que les héritiers font d'habitude tout d'abord. Elle voulut voir ce qu'avait laissé le défunt. Elle ouvrit la chambre secrète avec une crainte mêlée de respect. Mais son attente fut trompée. Il n'y avait ni brillants vêtements, ni trésors, mais seulement quelques paquets d'herbes, des sacs pleins de racines, des pierres et différents objets dont elle ne connaissait pas l'usage, car son père ne lui avait jamais fait connaître cette chambre mystérieuse. Enfin, elle trouva dans une cachette quelques écrits qu'elle parcourut. Plusieurs, ornés de riches cachets, étaient écrits sur très beau papier dans une langue étrangère qu'elle ne connaissait pas. Mais d'autres étaient en allemand des Pays-Bas, langue qu'elle savait très bien lire et écrire, parce que sa mère, descendante d'une ancienne maison des comtes de Hochstraten, et qui s'était fait enlever par le duc Michel, avait appris cette langue qu'elle aimait à son mari et à sa fille. Elle prit les livres et lut toute la nuit, car elle dormait le jour pour éviter de faire aucun bruit. Au matin, Braca lui envoya sa chouette apprivoisée pour lui faire savoir qu'elle désirait entrer. Bella quitta son livre avec dépit, et lorsque la vieille se présenta, elle resta silencieuse devant elle. Alors Braca, appliquant ses deux mains sur les pages du livre, lui dit « Allez, maintenant, plus d'amitié, plus de baisers. Lorsque les enfants sont petits, ils ne croient jamais être assez reconnaissants du moindre service. Mais aussitôt qu'ils commencent à grandir, ils n'ont plus d'oreilles pour tout le bien qu'on leur fait. Tu n'auras pas de gâteau aujourd'hui si tu ne me demandes pas comment il faut. J'ai passé une demi-heure chez le boulanger pour l'avoir. Il devait aller chez le prince et a fait attendre toutes ses pratiques. Mais quand je ne t'en demande point, tu n'as pas de repos que je n'ai mangé que ton gâteau. Allez, donne-le donc, qu'elle soit plus méchante comme cela. Moi, j'ai examiné aujourd'hui les livres de mon père et j'y ai trouvé de si belles histoires, si belles et si merveilleuses, que cela me donnerait envie d'être revenant. » La vieille regarda dans le livre. « C'est étonnant, dit-elle, que moi, qui suis vieille, je ne sache pas lire, et toi qui n'as pas encore vécu, tu lis si bien et si couramment. Maintenant, écoute-moi, puisque tu as si envie d'être revenant, tu peux te satisfaire. C'est une idée qui me vient, et nous pouvons en profiter. »
Qu'est-ce donc, dit Bella, tu as l'air d'hésiter.
Oui, voici ce que c'est. Il n'y a pas à plaisanter dans ce que je vais te dire. Le prince Charles passait à cheval hier devant cette maison avec son précepteur Sandrio. Il demanda d'où venait que cette maison fût ainsi fermée et abandonnée. Chanrio lui raconta comme quoi les revenants avaient écarté tous les acheteurs et tous les locataires. Mais le prince, au lieu de s'en effrayer, jura qu'il voulait passer tout seul une nuit dans cette maison et qu'il saurait bien en chasser les esprits. Tu comprends qu'il peut à tout moment venir ici et ces gens garderont si bien les issues qu'aucun de nous ne pourra entrer ni sortir.
Quoi, Braca? Dit la jeune fille. Je pourrais donc voir le prince? Oh, j'ai si souvent entendu parler de lui. On dit qu'il est si beau, si noble, qu'il monte si bien à cheval.
Tu penses beaucoup trop au prince, et pas à notre salut, continua la vieille. Es-tu capable de jouer le revenant? Cela nous sauvera.
Pourquoi pas, dit Bella, comment faire?
Et elle continua sa lecture. Écoute, mon enfant, il ne peut passer la nuit que dans la grande chambre noire avec laquelle et sur laquelle donne le cabinet secret de ton père, car toutes les autres ont plusieurs entrées, ce qui serait moins sûr pour lui, et de plus, c'est la seule où il y ait un lit. Maintenant, allez, suppose-le bien tranquille et bien endormi. Tu te glisses hors du cabinet et tu te places à côté de lui dans le lit. Je te jure qu'il se sauvera bien vite de frayeur et qu'il ne reviendra plus. Mais si par hasard il ne s'effrayait pas et qu'il te retint, il ne t'en coûtera qu'un mensonge. Tu diras que c'est l'amour qui t'a poussé à te glisser ainsi auprès de lui et qui peut faire ton bonheur.
Oui, dit Bella en continuant de lire, tu as une bonne idée.
Mais dis-moi donc où tu as trouvé ce maudit livre. Lorsque je te parle des choses les plus importantes, tu ne penses qu'à ton livre.
Je l'ai trouvé dans la chambre de mon père, dit Bella. Il y a encore plusieurs, prends-en un aussi.
Puisque tu le permets, répondit la vieille, je vais y entrer. J'ai jamais osé y aller du vivant de ton père. Va, Bella. Oh, tu ne trouveras pas grand-chose. La vieille se dirigea vers le cabinet avec une curiosité mêlée de crainte. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle pria Bella de rappeler le chien noir qui se tenait toujours couché en travers et qui ne laissait entrer personne que Bella. Bella appela le chien et la vieille pénétra aussitôt dans la chambre. Lorsqu'elle y fut entrée, Bella voulut se divertir et rappela le chien, le fit coucher de nouveau devant la porte et se cacha pour jouir à son aise de la frayeur de la vieille. C'était une plaisanterie de noble fille. Quelques minutes après, la vieille reparut avec un sac et un gros paquet d'herbes. Mais le chien lui faisait une paire d'yeux flamboyants et lui montrait ses dents. Elle resta clouée sur le seuil et appela Bella en tremblant. En ce moment, elles entendirent devant la porte un bruit inaccoutumé de chevaux et des hommes armés marchaient dans la cour. Bella, effrayée, se réfugia avec la lumière et le chien dans le cabinet où se trouvait déjà la vieille. Elles fermèrent la porte et attendirent en silence pour voir si c'était par hasard le prince qui venait pour combattre les esprits. Elle ne s'était pas trompée. C'était Charles, le brillant et puissant héritier d'un empire où le soleil ne se couchait pas. Il entra dans la chambre abandonnée, comme l'avait prévu la vieille. Bella pouvait le regarder à son aise par une fente de la porte. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Elle ne s'était encore trouvée qu'en face de noirs bohémiens, bruyants et grossiers, tandis que lui marchait avec tant de noblesse. Il avait l'air si doux et si fort en même temps qu'elle avait reconnu le maître bien avant que ceux qui l'accompagnaient l'eussent appelé prince. Charles jeta avec vivacité son chapeau sur la table, étendit son manteau sur le lit et dit à Cenrio de faire cerner la maison avec soin et de lui laisser deux flambeaux allumés, que pour le reste, il pouvait être tranquille. Cenrio lui recommanda de ne pas manquer de tirer un coup de pistolet s'il avait besoin de quelqu'un, et si le coup manquait, il n'aurait qu'à appeler. Un soldat serait placé sous la fenêtre, et lui-même, Cenrio, veillerait non loin de là. Le prince lui répondit qu'il se passerait bien de toutes ses précautions et de toutes ses sentinelles, qu'avec sa cotte de maille et son épée, il ne craignait personne, et que ce n'étaient pas les contes de revenants qui pouvaient l'effrayer. Cenrio sortit, le prince s'accouda sur la table et chanta un lied pour se tenir éveillé. Puis il s'étendit sur le lit et continua de chanter en s'assoupissant peu à peu. Comme le lit était en face du cabinet, Bella pouvait voir et entendre parfaitement le prince. « Viens, chère nuit noire, et imprime les étoiles étincelantes comme le sceau de ta force, comme les marques de mon infimité dans mon cœur courageux, afin que tous leurs rayons enchâssés dans ma couronne à venir me soutiennent, car je suis fatigué de servir. » Elle est assise sur un trône encore obscur. On porte sur un coussin de nuages sa couronne éternellement resplendissante. Oh, si je pouvais baiser cet objet aimé, et que l'étoile de Vénus me fît pour une seule nuit son maître, alors je pourrais m'emparer de la terre avec toutes ses couronnes. Celui-là m'a l'air assez impatient d'arriver au trône, dit tout bas la vieille Abella. Bientôt le prince ferma les yeux, sa tête s'inclina. Il était endormi et Bella restait immobile à le regarder, sans pouvoir se rassasier. Comme le pistolet et l'épée du prince étaient par terre devant le lit, Bella devait d'abord les enlever sans bruit, et ensuite jouer son rôle de spectre en venant se coucher à côté du prince. La jeune fille, après quelques hésitations, se décida à ôter ses souliers et ses bas, pour ne pas faire de bruit en marchant, et à quitter sa robe dans la crainte de renverser quelque chose, et pour pouvoir plus vite se sauver vers la porte qu'elle devait laisser ouverte. Bella n'avait aucune inquiétude. Elle était heureuse de pouvoir s'approcher du prince et ne réfléchissait pas si l'entreprise de la vieille était raisonnable ou non. Elle se dirigea avec précaution vers le lit du prince. Il dormait si profondément qu'elle put facilement lui ôter ses armes. La vieille les regardait tous deux avec joie. Bella, selon l'usage des bohémiennes, avait une longue chemise de toile bleue retenue par une boucle d'or. Elle s'approchait tout doucement du prince, tendant vers lui ses bras blancs et ronds. Ses cheveux tombaient en mille mèches de jais. Elle le regarda avec des yeux pleins d'amour, mais bientôt elle n'y tint plus et ses lèvres vinrent s'appuyer sur celles du prince. Bon, jusque-là, tout s'était bien passé. Mais le prince, réveillé par ce baiser, les yeux encore pleins des visions du sommeil, sauta du lit avec précipitation et tout haletant s'enfuit en criant dans la chambre voisine. Son pistolet, son épée, il avait tout oublié. De telles frayeurs se rencontrent souvent dans les cœurs les mieux trempés. Ils ont horreur de ce monde inconnu et effroyable qui échappe à toutes nos recherches. Bella était si étonnée de cette fuite qu'elle tomba presque évanouie dans les bras de la vieille qui l'emporta aussitôt dans le cabinet. Le prince arriva bientôt avec Cenrio et quelques soldats qui, à la vérité, aurait mieux aimé rester dehors que d'entrer dans cette chambre. Le prince, plus brave que tous, s'avança et s'écria: malgré les noirs serpents qui couvraient sa tête, je n'ai jamais eu un plus beau visage. Le spectre était très grand, il portait sur la poitrine un point brillant et... par la sainte mère de Dieu, je crois qu'il est encore auprès du lit. Personne ne veut donc entrer ici, bien je vais y rentrer moi-même. Ben, il n'y a plus rien. Où est donc le revenant? Chenryo, si je savais seulement ce qu'il me voulait. Par Dieu, je reste ici. Mes lèvres ne sont pas brûlées, n'est-ce pas? Cependant, je vous le jure, il m'a donné un baiser qui a fait battre mon cœur de plaisir. Chenryo, je veux rester ici pour lui demander ce qu'il veut de moi. Chenryo jura qu'après une telle frayeur, il ne le laisserait pas exécuter ce projet, que le prince lui-même ne devait pas se faire prier plus longtemps et donner en se retirant une preuve de son bon sens, qu'il pouvait sans honte quitter cette maison où les plus braves tremblaient au moindre bruit. La vieille n'était pas très contente de cet arrangement. Cependant, elle en comprit tout de suite les avantages. C'était un moyen de rendre la maison encore plus sûre pour elle et pour les siens. Aussi, dès que ses hôtes audacieux eurent quitté la chambre, elle sortit de sa cachette, ferma toutes les portes avec bruit, renversa tous les meubles, de sorte que les cavaliers effrayés montèrent précipitamment à cheval et, sans regarder derrière eux, gagnèrent à toute bride la ville, où l'histoire racontée et amplifiée de tous côtés allait rendre encore plus redoutable la maison des esprits. À peine rentré chez lui, le prince fut saisi d'une fièvre violente. Comme l'image de Bella remplissait son cerveau, sa fièvre le trahit, et le lendemain matin, il avoua avec douleur à Adrien, son précepteur, qu'il était amoureux d'un revenant. Adrien, que l'empereur Maximilien avait donné au prince pour lui apprendre le latin, ne manqua pas cette occasion de lui adresser une foule de beaux discours qui remirent un peu le prince des impressions de la nuit. À cause de son isolement, la pauvre Bella devait expier plus durement que tout autre cette première passion. Pendant 2 jours, elle pensa à lui au lieu de dormir. La nuit, elle regardait de tous côtés pour voir s'il ne reparaîtrait pas dans la maison des esprits. Elle n'écoutait pas les conseils de Braca, qui la réprimandait de se laisser aller à de si folles pensées, qui lui blanchiraient les cheveux avant l'âge. Rompant enfin le silence qu'elle avait gardé jusque-là, elle demanda à la vieille s'il n'y avait pas un moyen de se rendre invisible pour pouvoir aller sans crainte dans la ville. La vieille se mit à rire et lui répondit: « Je ne connais pas d'autre moyen que d'avoir beaucoup d'argent. Avec cela, on peut aller où on veut. Et la vraie racine force porte, au moyen de laquelle on fait tomber toutes les serrures. Ton père avait peut-être quelque autre moyen, mais s'il ne se trouve pas dans ses livres, il sera perdu, car il n'en a montré aucun. » Ces mots frappèrent Bella. Elle se tut, et dès que la vieille fut sortie, elle alla chercher les livres que, depuis la visite du prince, elle avait laissés dans un coin. En même temps, elle s'aperçut que la vieille avait emporté toute sa provision de racines et d'herbes, et cette infidélité lui fit prendre la résolution de ne pas lui découvrir dans quel but elle allait avoir recours à des forces secrètes. Mais quel embarras de fouiller dans ses livres, de lire toutes ces lois mystérieuses, toutes ces préparations auxquelles elle ne comprenait rien. Ces moyens de trouver la pierre philosophale, de citer les esprits, de guérir les maladies, d'enchanter les animaux, et même de faire de l'or. Voyez, il est vrai, c'est difficile qu'il eût été, je crois, plus commode d'aller au soleil dans un char attelé de deux lunes. Après une semaine passée dans d'infructueuses recherches, elle découvrit enfin dans un de ses livres le moyen d'avoir la racine de mandragore et d'en obtenir de l'argent. C'est tout ce que peut désirer un être humain. Mais bien que ce fût une des plus amples, simples opérations de la magie, elle présentait cependant d'extrêmes difficultés. La magie, en effet, demande un rude apprentissage. Qui pourrait aujourd'hui affronter toutes les épreuves auxquelles il fallait se soumettre pour avoir la mandragore? Qui pourrait les accomplir avec succès? Il faut une jeune fille qui aime de toute son âme, qui, oubliant toute la pudeur de son rang et de son sexe, désire ardemment voir son bien-aimé. Condition qui, pour la première fois peut-être, se trouvait satisfaite dans Bella. Regardée par les bohémiens comme un être d'un rang supérieur, elle s'était toujours considérée comme telle. L'apparition du prince l'avait tellement frappée, et elle l'avait vue avec une âme si pure qu'aucune arrière-pensée eût pu s'éveiller en elle. Chez cette jeune fille doit couver un courage surhumain. Il faut, au milieu de la nuit, emmener un chien noir, aller sous un gibet ou un pendu innocent et laisser tomber ses larmes sur le gazon. Arrivé là, on doit se boucher soigneusement les oreilles avec du coton et promener ses mains par terre jusqu'à ce qu'on trouve la racine. Et malgré les cris de cette racine, qui n'est pas un végétal mais qui est né des pleurs du malheureux, on se dépouille la tête, on fait de ses cheveux une corde dont on entoure la racine, on attache le chien noir à l'autre extrémité, on s'éloigne alors de manière que le chien, voulant vous suivre, arrache la racine de terre et se trouve renversé par une secousse foudroyante. Dans cet instant, si l'on ne s'est pas bien bouché les oreilles, on risque de devenir fou d'effroi. Bella était peut-être la seule depuis bien des années chez laquelle toutes ces conditions se trouvassent réunies. Qui était plus innocent que Michel, son père, lui qui avait sacrifié son existence pour son peuple et qui avait vécu constamment dans la souffrance et le besoin? Quelle jeune fille aurait eu le courage de sortir ainsi la nuit, si ce n'est Bella qui, depuis 4 ans, époque de la mort de sa mère, avait mené une existence cachée et nocturne, et qui était assez familière avec le cours de la lune et des étoiles pour trouver dans la nuit une consolation et une solitude animée. Quelle jeune fille avait comme elle un chien noir qu'elle détesta autant? Car depuis le jour où, toute petite, il l'avait mordue, elle ne pouvait le souffrir. Maintenant même que le chien lui obéissait avec un zèle exemplaire et veillait toujours sur elle, tout cela d'un air singulier qui faisait dire à Michel qu'il y avait quelque chose du diable dans ce chien. Quelle jeune fille avait une chevelure comme Bella, assez longue pour pouvoir entresser une corde, et quelle jeune fille l'eût sacrifiée avec autant d'indifférence? Tandis qu'elle ne se savait pas belle et se trouvait contente de ne plus avoir à peigner de si longs cheveux. Elle coupa donc cette chevelure où les étoiles auraient pu venir se jouer comme dans celle de Bérénice. D'un coup de ciseau, elle les fit tomber à ses pieds, qu'ils entourèrent comme d'un voile noir. Avec cela, elle allait tresser la corde qui devait lier et tuer son chien Simpson. Elle s'aperçut facilement que le chien avait compris tout ce qu'elle avait dit, car au lieu d'aller enfouir sa pitance dans le jardin, il se mit au contraire à déterrer tous ses trésors cachés et à les manger avidement. Tout autre aurait été touché,
Bella ne s'en émut pas le moins du monde. Du reste, le chien ne paraissait pas triste. Il la regardait d'un air railleur, et lorsqu'arriva le vendredi, car c'est un vendredi que doit se faire l'opération, il parcourut toute la maison, inspecta tous les coins, et contre son habitude, s'alla réfugier dans sa niche. Braca passa toute la journée à lui raconter la longue histoire de son premier amour, entremêlée de « dis-je, dit-il, qu'il dit, etc. » Bella aurait pu en prendre sa part et mettre à profit la connaissance des malheurs de la vieille pour assurer le succès de son entreprise, mais elle n'était occupée qu'à compter avec impatience les heures et les minutes. Aussi, lorsque minuit sonna, elle sauta de sa place et, irritée d'être obligée de remettre l'affaire à la semaine suivante, elle saisit la vieille et se mit à danser avec elle la danse de la grue, qui est la danse nationale des bohémiens, jusqu'à ce que Braca, hors d'haleine, tomba sur un siège en toussant et jurant qu'elle n'avait jamais si bien dansé depuis le jour de ses noces. Elle s'introduisit un morceau de réglisse dans la bouche pour apaiser sa toux et s'en alla en regrettant d'être obligée de partir si tôt. Jusqu'à ce moment, Bella avait été fort inquiète. Aussi n'était-elle pas fâchée d'avoir encore une semaine devant elle pour se préparer. Le chien ne paraissait pas non plus regretter ce retard qui lui permettait de finir ses provisions. Bella lui réservait les morceaux les plus délicats, car elle savait qu'il devait être sacrifié pour elle, et souvent, malgré son aversion pour l'animal, il lui venait des larmes aux yeux en le regardant. Mais elle se consolait en se rappelant ce que disait le livre magique, que l'âme du chien fidèle qui perdait la vie dans cette occasion allait au ciel rejoindre celle de son maître. Et Bella était sûre que Simpson serait plus heureux avec le duc Michel qu'avec elle. Le deuxième vendredi était enfin arrivé. Il commençait à faire froid et l'eau gelait déjà dans les mares et les étangs. La vieille avait dit à Bella qu'elle ne viendrait pas le voir de quelques jours parce que son rhume la retenait à la maison. Tout allait à souhait. Les voisins étaient tous à la ville, la nuit était obscure, et le vent balayait sur la terre durcie les premiers flocons de neige. Bella relut encore une fois le livre d'enchantement. Son cœur battait violemment. Dans ce moment, le chien noir se mit à déchirer la poupée à laquelle Bella avait donné le costume du prince. Cela devait décider du sort de l'entreprise. Elle voulut punir cette insulte faite à son bien-aimé. Détachant la corde tressée de ses cheveux, que jusque-là, pour ne pas éveiller les soupçons de la vieille, elle avait gardée sur sa tête, elle frappa le chien. Celui-ci, voulant sortir, se dirigea vers la porte. Elle l'ouvrit, et tous deux se trouvèrent transportés dans le monde mystérieux et bizarre des enchantements. Ils suivirent d'abord un chemin qu'ils ne connaissaient pas, en se dirigeant toutefois du côté où ils supposaient trouver la montagne où se dressait l'échafaud. Il n'y avait pas un homme sur cette route. Seulement plusieurs chiens vinrent à grand bruit vers la porte du jardin et coururent sur le noir Simpson. Mais au moment où ces philistins s'approchaient de lui, il les fixa en leur montrant ses grosses dents, si bien que tous, jusqu'au plus petit, s'enfuirent effrayés, la queue repliée entre les jambes, et se réfugièrent derrière la porte en poussant des cris pitoyables. Au même instant, deux porcs épics, leurs dards garnis de pommes et de poires qu'ils avaient ramassées dans le jardin, traversèrent la route. Mais à l'aspect du chien, ils se formèrent en boule et celui-ci se contenta de leur prendre leur butin et de s'en régaler. Bella ne s'effraya pas de tout cela, mais une chose lui paraissait extraordinaire. Soit qu'elle s'arrêtât, soit qu'elle s'avançât vers la montagne, elle sentait quelqu'un marcher derrière elle et si près d'elle que souvent le mystérieux personnage touchait avec la pointe de son pied le talon de la jeune fille. Elle n'osait pas regarder derrière elle et marchait toujours plus vite jusqu'à ce qu'un coup violent appliqué sur sa tête la renversa à terre. Elle n'avait été qu'étourdie. Elle se releva et prit courage. Tout était silencieux. Elle regarda autour d'elle et ne vit personne. Mais elle s'aperçut qu'elle s'était heurtée contre une barrière. Et ce qui avait suivi ses pas si exactement n'était qu'une branche de pin qui s'était attachée à sa robe. Elle rit elle-même de sa peur et résolut d'être maintenant plus raisonnable. Elle avait déjà oublié cet incident lorsqu'une troupe de chevaux, attachés deux à deux, vinrent caracoler devant elle, puis s'enfoncèrent en courant dans le taillis qui bordait la route. Bella était arrivée sur la hauteur, elle voyait la riche cité toute brillante de lumière. Une maison resplendissait plus que les autres. Elle pensa que ce devait être la demeure du prince. La vieille la lui avait décrite ainsi, et elle savait que c'était aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance. Elle aurait tout oublié à cet aspect, même les pendus desséchés qui se balançaient au-dessus de sa tête, en se heurtant l'épaule comme pour se demander quelque chose, si le chien ne s'était pas mis de lui-même à gratter au pied de la potence. Elle chercha ce qu'il avait découvert, et elle se sentit dans les mains une figure humaine. Une petite figure humaine qui avait encore les deux jambes enracinées dans la terre. C'était elle. C'était la bienheureuse Mandragore, l'enfant de la potence. Elle l'avait trouvée sans peine. Elle attacha une extrémité de la tresse à la racine. Elle enroula l'autre bout au cou du chien noir, et, pleine d'anxiété, elle se mit à courir malgré les cris de la racine. Mais elle avait oublié de se boucher les oreilles. Elle courut aussi vite qu'elle put, et le chien, la suivant, arracha la racine de terre. Aussitôt, un effroyable coup de tonnerre les renversa tous deux. Par bonheur, elle avait couru très vite et se trouvait déjà éloignée d'environ 50 pas. Cette circonstance l'avait sauvée. Cependant, elle resta longtemps évanouie et elle s'éveilla vers 7 heures où les amoureux satisfaits quittent leur maîtresse et vont se reposer de leur bonheur. Un d'eux chantait une chanson sur sa jolie bien-aimée et sur les mauvaises langues qui troublent les plus paisibles amitiés. Il dormait à moitié et ne fit pas attention à Bella. L'endroit où elle se trouvait lui était inconnu. Elle se leva avec peine, et les premières lueurs du jour lui permirent de voir Simpson étendu mort à ses pieds. Elle le reconnut et se rappela tout successivement. Au bout de la tresse qu'elle détacha du chien, elle trouva un être de forme humaine, semblable à une ébauche animée, mais que n'a pas encore vivifié la pensée, quelque chose comme une larve de papillon. C'était la mandragore, et, chose étonnante, Bella avait entièrement oublié le prince, l'unique cause qui l'avait poussée à chercher la mandragore, tandis qu'elle aimait le petit homme avec une tendresse qu'elle n'avait encore ressentie que la nuit où elle avait vu Charles pour la première fois. Une mère qui croit avoir perdu son enfant dans un tremblement de terre ne le revoit pas avec plus de joie et de tendresse que Bella, lorsqu'elle porta la mandragore sur son cœur, en lui ôtant la terre qui couvrait encore ce petit être, et en le débarrassant des pousses qui le gênaient. Du reste, il paraissait ne rien sentir. Son haleine sortait irrégulièrement par une ouverture imperceptible qu'il avait à la tête. Lorsque Bella l'avait bercé quelque temps dans ses bras, il portait ses mains à sa poitrine pour indiquer que le mouvement lui plaisait. Et il ne cessait de remuer bras et jambes qu'elle ne l'eût endormi en recommençant ce mouvement. Après cela, elle rentra avec lui à la maison. Elle ne fit pas attention aux aboiements des chiens ni aux marchands disséminés sur la route qui se rendaient vers la ville pour être les premiers à l'ouverture des portes. Elle ne voyait que le petit monstre qu'elle avait soigneusement enveloppé dans son tablier. Elle arriva enfin dans sa chambre, alluma sa lampe et examina le petit être. Elle regrettait qu'il n'eût pas de bouche pour recevoir ses baisers, pas de nez pour donner un passage régulier à son haleine divine, pas d'yeux qui laissent se voir dans son âme, pas de cheveux pour garnir le frêle siège de ses pensées. Mais cela ne diminuait en rien son amour. Elle prit son livre d'enchantement et chercha le moyen employé pour développer les forces et compléter la formation de cette carotte garnie de membres et douée de vie. Elle le trouva bientôt. Il fallait d'abord laver la mandragore. Elle le fit, puis lui semer du millet sur la tête et une fois ce millet poussé et transformé en cheveux, les autres membres se déliraient eux-mêmes. Elle devait ensuite, à la place de chaque œil, placer une baie de genièvre et à la place de la bouche, le fruit de l'églantier. Par bonheur, elle pouvait se procurer tout cela. La vieille lui avait apporté récemment quelques grains de millet qu'elle avait volés. Le genièvre, son père s'en servait pour parfumer sa chambre. Et comme elle ne pouvait souffrir cette odeur, il lui en restait une poignée qu'elle n'avait jamais touchée. Il y avait dans le jardin un églantier encore couvert de fruits rouges, dernière parure de l'année expirante. Tout était prêt. Elle mit d'abord le fruit de l'églantier à la place indiquée, mais elle ne s'aperçut pas qu'en y déposant un baiser, elle l'avait fait entrer de travers. Puis elle lui planta les deux baies de genièvre. Elle trouva que cela lui seyait si bien qu'elle lui en aurait volontiers mis une douzaine si elle eût trouvé la place. Elle pensait bien lui en mettre par derrière, mais elle craignait qu'ils ne fussent pas suffisamment garantis. Cependant, elle finit par lui en placer une paire à la nuque. Et nous devons avouer que cette disposition n'est pas tout à fait à dédaigner pour son originalité. Elle était en même temps joyeuse et triste d'avoir ainsi créé un être qui devait lui donner tant de tourments, comme tous les hommes en donnent à leur créateur. D'un autre côté, en regardant son petit monstre informe, elle était contente comme une jeune artiste à qui tout réussit au-delà de ses espérances. Elle le coucha dans un petit berceau trouvé dans la maison, l'enveloppa bien dans les couvertures et l'enferma soigneusement pour le cacher à la vieille Braca. C'était son premier secret.